J'ai vu, me contait-elle, moi qui te parle. J'ai vu neiger au mois de juillet.
Au mois de juillet?
Oui, un jour comme celui-ci. Comme celui-ci? Je répétais la fin de ses phrases. J'avais déjà la voix plus grave que la sienne, mais j'imitais sa manière. Je l'imite encore. Oui, comme celui-ci, dit ma mère en soufflant sur un flocon impondérable d'argent, arraché au pelage de la chienne havanaise qu'elle peignait. Le flocon, plus fin que le verre filé, s'embarqua mollement sur un petit ruisseau d'air ascendant, monta jusqu'au toit, se perdit dans un excès de lumière. « Il faisait beau, reprit ma mère, beau et bon. Vint une saute de vent, une queue d'orage que la saute de vent emmena et bloqua sur l'est naturellement. Une petite grêle très froide, puis une chute de grosse neige épaisse et lourde. Des roses couvertes de neige, des cerises mûres et des tomates sous la neige. Des géraniums rouges qui n'avaient pas eu le temps de refroidir et qui fondaient la neige à mesure qu'elle les couvrait. Ce sont des tours de celui-là. » Elle désignait, du coude, et menaçait du menton le siège altier, l'invisible lit de justice de son ennemi, l'Est, que je cherchais par-delà les chaudes nues croulantes et blanches du bel été. « Mais j'ai vu bien autre chose, » reprenait ma mère.
« Autre chose ?»
Peut-être avait-elle rencontré, un jour, montant vers Bel Air ou sur la route de Turie, l'Est lui-même. Peut-être un grand pied violacé, la mare gelée d'une prunelle immense, avait-il, pour qu'elle me les décrivît, divisé les nuages. J'étais grosse de ton frère Léo et je promenais la jument avec la Victoria. La même jument que maintenant? Naturellement, la même jument. Tu n'as que 10 ans. Crois-tu qu'on change de jument comme de chemise? La nôtre était alors une très belle jument, un peu jeune, que je laissais quelquefois mener par Antoine. Mais je montais dans la Victoria pour la rassurer. Je me souviens que je voulus demander « Pour rassurer qui ?» Je me retins, jalouse de garder intacte la foi et l'incertitude d'une équivoque. Pourquoi la présence de ma mère n'eût-elle pas rassuré la Victoria ? Tu comprends ? Quand elle entendait ma voix, elle se sentait plus tranquille. Mais certainement très tranquille, et tout étalé, en drap bleu entre ses deux lanternes riches, à couronne de cuivre découpée en trèfle, une figure de Victoria tranquillisée. Parfaitement. Dieu, que tu as l'air bête en ce moment, ma fille. Tu m'écoutes?
Oui, maman.
Donc, nous avions fait un grand tour par une de ces chaleurs. J'étais énorme et je me trouvais lourde. Nous rentrions au pas et j'avais coupé des genêts fleuris, je me rappelle. Nous voilà arrivés à la hauteur du cimetière. Non, ce n'est pas une histoire de revenant. Quand un nuage, un vrai nuage du sud, marron roux, avec un petit ourlet de mercure tout autour, se met à monter plus vite dans le ciel. Tonne un bon coup et crève en eau comme un seau percé. Antoine descend et veut lever la capote pour m'abriter. Je lui dis « Non, le plus pressé, c'est de tenir la jument à la tête. Si la grêle vient, elle s'emballera pendant que vous lèverez la capote. » Il tient la jument, qui dansait un peu sur place, mais je lui parlais, tu comprends? Comme s'il n'avait pas plu ni tonné, je lui parlais sur un ton de beau temps et de promenade au pas. Et je recevais un agado incroyable sur ma malheureuse petite ombrelle en soie. Le nuage passé, j'étais assise dans un bain de siège, Antoine trempé, et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu vider la capote, nous y avons trouvé quoi? Des grenouilles, minuscules, vivantes, au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud, par une trombe chaude, une de ces tornades dont le pied en pas de vis ramasse et porte à 100 lieues un panache de sable, de graines, d'insectes. J'ai vu cela, moi. Oui. Elle brandissait le peigne de fer qui servait à carder la chevelure de la havanaise et les angoras. Elle ne s'étonnait pas que des prodiges météorologiques l'eussent attendue au passage et tutoyée. Vous croirez sans peine qu'à l'appel de Sido, le vent du sud se levait devant les yeux de mon âme, tort sur son pas de vis, empanaché de graines, de sable, de papillons morts, raciné au désert de Libye. Sa tête, indistincte et désordonnée, s'agitait, secouant l'eau et la pluie de grenouilles tièdes. Je suis capable encore de le voir. Mais que tu as donc l'air bête aujourd'hui, ma fille. D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. C'est dommage que cela t'arrive si rarement. Tu pêches déjà, comme moi, par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'égare mon dé, d'avoir perdu un parent bien-aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entrouverte et tu rajeunis. À quoi penses-tu?
À rien, maman.
Je ne te crois pas, mais c'est très bien imité. Vraiment très bien, ma fille. Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur. je tressaillais. Je rougissais sous la louange piquante, l'œil acéré, la voix au final haute et juste. Elle ne m'appelait « ma fille » que pour souligner une critique ou une réprimande. Mais la voix, le regard, était prompt à changer. « Oh, mon joyau tout en or, ce n'est pas vrai, tu n'es ni bête ni jolie, tu es seulement ma petite fille, incomparable. Où vas-tu ?» Comme à tous les inconstants, l'absolution me donnait des ailes, et dûment embrassée, légère, j'apprêtais déjà ma fuite. « Ne t'en va pas loin à cette heure-ci, le soleil se couche dans… » Elle ne consultait pas la montre, mais la hauteur du soleil sur l'horizon, et la fleur du tabac ou le datura, assoupie tout le jour et que le soir éveillait. « Dans une demi-heure, le tabac blanc embaume déjà. Veux-tu porter des aconites, des encolis et des campanules chez Adrienne Saint-Aubin et lui rendre la revue des deux mondes ? Change de ruban, mets-en un bleu pâle. Tu as un teint pour le bleu pâle ce soir. » Changer de ruban. Jusqu'à l'âge de 22 ans, on m'a vu coiffée de ce large ruban, noué autour de ma tête, à la Vigée Lebrun, disait ma mère, et porter un message de fleurs. Ainsi, ma mère m'avertissait que j'étais pendant une heure, un jour, particulièrement jolie, et qu'elle s'enorgueillissait de moi. Le ruban en papillon épanoui au-dessus du front, quelques cheveux ramenés sur les tempes, je prenais les fleurs à mesure que Sido les coupait. « Maintenant, va, donne les encolis doubles à Adrienne Saint-Aubin. Le reste à qui tu voudras, dans notre voisinage. Sur l'est, il y a quelqu'un de malade, la mère Adolphe. Si tu entres chez elle… » Elle n'avait pas le temps de finir sa phrase que je reculais, d'un saut, renâclant comme une bête devant l'odeur et l'image de la maladie. Ma mère me retenait par le bout d'une de mes tresses et son soudain visage sauvage, libre de toute contrainte, de charité, d'humanité, bondissait hors de son visage quotidien. Elle chuchotait. « Tais-toi, je sais, moi aussi. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut jamais le dire. Va, va maintenant. Tu t'es encore mis cette nuit un papier à papillote sur le front, hein, Matine ?» Enfin, elle lâchait ma reine de cheveux, s'éloignait de moi pour me mieux voir. « Va leur montrer ce que je sais faire !» Mais quoi qu'elle m'eût recommandé, je n'entrais pas chez la malade de l'Est. Je passais la rue comme un guet, en sautant de l'un à l'autre caillou pointu, et je ne m'arrêtais que chez la singulière amie de ma mère, chez Adrienne. Les enfants et les neveux que celle-ci a laissés n'auront pas gardé d'elle un souvenir plus vif que n'est le mien. Vive, guetteuse et somnolente, un bel œil jaune de gitane sous les cheveux crépus, elle errait avec une sorte de lyrisme agreste, une exigence quotidienne de nomade. Sa maison lui ressemblait par le désordre et par une grâce qui se refuse aux sites et aux êtres polissés. Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure étouffante, rose et glycine dans son jardin, escaladait les ifs, gagnait le soleil par des efforts d'ascension et des dépenses d'énergie qui réduisaient leur tige mère, étirée, à une nudité de reptile. Mille roses, réfugiés au sommet des arbres, fleurissaient, hors d'atteinte, parmi des glycines à longues gouttes de fleurs et des bignonniers pourpres, victorieux ennemis des clématites épuisées. Sous cette chevelure, la maison d'Adrienne suffoquait aux heures chaudes. Sûre d'y trouver des piles de livres éboulés, des champignons cueillis à l'aube, des fraises sauvages, des ammonites fossiles et, selon la saison, des truffes grises de puisaies, je m'y glissais à la manière d'un chat. Mais un chat hésite et demeure interdit devant un plus-chat. La présence d'Adrienne, son indifférence, un secret étincelant et bien gardé au fond de ses prunelles jaunes, je les supportais avec un trouble chagrin que je cotais peut-être à son prix. Elle mettait à me négliger une sorte d'art sauvage, et sa bohémienne, son universelle indifférence, me blessait comme une rigueur d'exception. Quand ma mère et Adrienne allaitaient, la première, sa fille, la seconde, son fils, elles échangèrent un jour, par jeu, leur nourrisson. Parfois, Adrienne m'interpellait en riant. « Toi, que j'ai nourri de mon lait !» Je rougissais si follement que ma mère fronçait les sourcils et cherchait sur mon visage la cause de ma rougeur. Comment dérober à ce lucide regard, gris de l'âme et menaçant, l'image qui me tourmentait ? Le sein brun d'Adrienne et sa cime violette et dure. Oubliée chez Adrienne, entre des cubes vacillants de livres, toute la collection de la Revue des Deux Mondes, entre autres, entre les tomes innombrables d'une vieille bibliothèque médicale à odeur de cave, entre des coquillages géants, des simples à demi-secs, des pâtés de chat aigri, le chien perdreau, le matou noir à masque blanc qui s'appelait Colette et mangeait le chocolat cru. Je tressaillais à un appel venu par-dessus les ifs entravés de rose et les thuyas étiques que paralysait un piton de glycine. Dans notre maison, surgissant d'une fenêtre comme pour annoncer le feu ou les voleurs, ma mère criait mon nom. Étrange culpabilité d'une enfant sans reproche. Je courais. J'apprêtais un air simple, un essoufflement détourdi. « Si longtemps chez Adrienne ?» Pas un mot de plus, mais quel accent. Tant de clairvoyance et de jalousie, en si dos, tant de confusion en moi refroidir, à mesure que je grandissais, l'amitié des deux femmes. Elles n'eurent jamais d'altercation. Rien ne s'expliqua entre ma mère et moi. Qu'eussions-nous expliqué ? Adrienne se gardait de m'attirer ou de me retenir. Ce n'est pas toujours par l'amour que la captation commence. J'avais 10 ans, 11 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'associasse un gênant souvenir, une certaine chaleur de cœur, la déformation féerique d'un être et de sa demeure à l'idée d'une première séduction. Sido et mon enfance, l'une et l'autre. L'une par l'autre furent heureuses au centre de l'imaginaire étoile à 8 branches, dont chacune portait le nom d'un des points cardinaux et collatéraux. Ma 12e année vit arriver la mauvaise fortune, les départs, les séparations. Réclamée par de quotidiens et secrets héroïsmes, ma mère appartint moins à son jardin, à sa dernière enfant. J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique. Mais il m'eût fallu une scie d'eau debout dans le jardin, entre la pompe, les hortensias, le frêne pleureur et le très vieux noyer. Là, je l'ai laissé, quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Là, je l'ai pourtant revu un moment furtif du printemps de 1928. Inspirée, le front levé, je crois qu'à cette même place elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement, par les 8 chemins de la rose des vents.